RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Vous écoutez
RMC. RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le RMC Poker Show. Comme tous les dimanches minuit, on est ensemble pendant une heure. Salut Mundi.
Je suis ravi toujours d'être avec toi le dimanche, comme tu le dis, ensemble, ça fait 10 ans.
Bah oui. Exact, ouais, mais à force que tu dis ça fait 10 ans,
bah oui, ça
on,
fait
va,
notre
on va
10e
pas
année,
tarder dans la 11e année bientôt. Hein.
Bah là, on enchaîne la 11e année à partir de septembre.
Ah, oula, monsieur fait des calculs.
Ah, toujours, c'est important.
On a un gros casting ce soir.
Là, c'est du lourd.
Alors, je sais pas si on commence par présenter le meilleur joueur de poker ou celui qui a la plus forte notoriété dans le paysage sportif français.
On peut dire la muraille de Chine. Disons qu'on est devant post-flop et on encaisse
le
but.
C'est une émission de poker, on commence par le meilleur joueur de poker des deux. David Iquita, il est avec nous en studio.
Salut frérot.
Salut les gars.
Alors autant, tu viens souvent dans l'émission, mais c'est très rare que tu sois à Paris avec nous en studio. Donc merci beaucoup.
Ah oui.
Ça nous fait vraiment plaisir. Ben, ça va David?
Ouais, en pleine forme. Ouais.
Qu'est-ce que c'est que cette casquette Rolex Monte Carlo?
C'est
vrai que ça démarre demain le tournoi.
Voilà, je fais la promotion pour l'événement.
Tu crois qu'ils ont vraiment besoin de promotion
Ils n'ont pas besoin de
moi. Tu sais qu'il est monégasque.
Oui, tu sais qu'il est monégasque.
Et tu sais que lorsque tu es monégasque, tu as un package où tu as de suite la casquette, le vélo.
Ah bon?
Oui, il y a le vélo. Et une entrée pour la piscine de Monte Carlo.
Et des entrées pour le tournoi tennis.
Oui.
Non, mais tu vas y aller?
J'y vais chaque année. C'est top là-bas. C'est très cool. Ouais. C'est très chouette.
Moi aussi, j'ai la chance d'y passer chaque année.
Ça avec Sergio Tacchini, je crois, non?
Non. Avec moi.
Toi?
Non, c'est pas mon ami.
C'est juste avant le PT Monte Carlo. C'est nickel. Il y a souvent plein de joueurs de poker qui sont.
Qui mettent des petits bêtes.
T'aimes le tennis? Je savais pas que t'aimes le tennis.
Ouais, après j'aime le foot, le tennis. Je suis pas non plus un fan comme Stéphane Matteux ou d'autres.
Ouais. En ce moment, le tennis belge est un peu en retrait.
Le tennis français aussi, si je peux me permettre.
Et alors vraiment, mais je n'ai pas dit ça pour vous parler. C'est un simple conseil. Moi qui étais très positif, qui voulait parler de Goffin, que j'ai beaucoup aimé et qui maintenant n'est plus sur le devant de la scène, l'autre il m'a renvoyé immédiatement.
Direct.
Les Belges ils sont comme ça. Hein. T'es belle, voilà. Immédiatement, t'as une réaction.
Attends, chez les Belges, il y a qui? Il y a Justine Hénin, c'est ça?
Oui. Je vais vous dire.
Quoi?
J'ai une sorte de 20 ans de retard, mais.
Bah quoi, mais elle a quand même gagné Roland Garros.
Ah oui.
Il y a Kim Kleister, c'est Justine Hénin.
Ça, c'est vieux. Hein.
Solidaire, mais c'est vieux.
On peut se remettre en 2024.
Ouais.
Bien aussi.
C'est vrai qu'il n'y a personne en ce moment. Ouais. Voilà.
Bon, l'autre invité.
Ouais, oui, du lourd.
Jérôme Alonso, comment ça va, Jérôme?
Salut,
Jérôme.
Messieurs, salut, Dan.
Alors, tu joues au poker? Non, pardon,
je joue moins, là, mais. Et là, les gars, je suis comme un enfant.
Non, parce que j'ai croisé récemment.
David en face de moi, c'est je suis comme un enfant. Quoi.
Ah ouais.
Mais vraiment. Là, j'ai rail en face de moi. Quoi.
Alors, je sais que tu es un grand fan de poker. Joueur. Non, en fait, le problème, c'est que je te taquine, c'est juste parce que j'ai croisé récemment un entraîneur de Ligue 1 pour qui ça marche pas mal en ce moment.
Qui est en Bretagne?
Qui est deuxième de Ligue 1. Je crois Eric Roy, c'est ça, tu connais?
J'ai entendu parler.
Il a dit Jérôme Alonso dans une émission de poker. Trois petits points. Je sais pas s'il était sérieux, je sais pas si vous voulez dire
par là.
Quand je pense que je lui ai tout appris. Quelle ingratitude. Mais l'élève a dépassé le maître depuis longtemps.
Alors parce que c'est vrai, parce que mine de rien, dans les footeux, je sais pas si t'as été le premier, mais t'as été en tout cas un de ceux
premiers.
Qui s'y intéressaient le premier.
Et qui a
beaucoup entraîné les autres à jouer.
Beaucoup, oui.
Et Eric, pour le coup, je pense que c'est toi qui as
vu. Eric. Ah ben Eric, il a démarré avec moi, oui. Mm-hmm. Nous, on avait un premier groupe au PSG, la fameuse année où on a failli descendre.
Ah bah tout s'explique alors.
Voilà, vous avez l'explication, 25 ans.
Merde, non, on a cherché des
Non, on a commencé à jouer un petit peu avec Jérôme Rotten, Mario Yepes.
Et Bernard Mendy aussi.
Bernard Mendy, ouais. Évidemment, voilà, donc on a commencé un peu.
Bernard est devenu un bon joueur.
Ouais, et puis
pour Jérôme Rotten, je ne dirais rien.
Mais on a commencé, ouais, donc depuis 2007, on s'y est mis un petit peu, et puis je vous raconterai comment je suis venu à jouer en cercle et les sensations que ça m'a procuré, et que voilà. C'est une très très belle rencontre, le poker.
Bon, Jérôme Alonso, pour ceux qui nous écoutent et qui sont totalement coupés de l'histoire du foot.
Ah, c'est du lourd.
Ancien gardien du PSG, et que du PSG, parce qu'il n'y a que ça qui est intéressant finalement.
T'as été à l'OM,
en Marseille aussi, Nantes, Saint-Etienne.
Ouais, remonté en Ligue 1 en 96.
Ouais. Si. Ah ouais, il a fait beaucoup de clubs, il a fait une magnifique carrière. Genre.
C'est gentil, ouais, 5 clubs.
Ah bah,
et 17 ans de bon nouveau service.
Et aujourd'hui, consultant.
Ah ouais.
Dans différents médias, Amazon, l'équipe.
C'est ça.
Voilà. Très bien, ce beau casting, on va pouvoir parler poker. Ah ouais, alors tu sais que j'aime beaucoup l'idée que tu as envie de véhiculer ce soir, parce que je pense que visiblement tu as dit à Jérémy que tu avais un problème au poker.
On a un peu le même. Le même.
Ouais. Voilà.
Ah non, ouais. Tu peux pas
alors,
dire ça.
Je sais
ça,
pas hein. Si David y sera un bon médecin pour ça, un bon psy. Mais on lui soumettra notre petit problème dont j'ai souvent parlé ici. David, je le disais, super que tu sois à Paris parce que c'est rare. Tu es évidemment beaucoup d'abord sur tous les tournois. Alors, première question, pourquoi ici en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a qui te retient à Paris en ce moment?
Ouais, j'ai prévu de faire un challenge avec Gaël Baumann chez Winamax. Mmh. Donc, on va streamer nos parties. Le but est de deviner combien on va gagner. C'est un peu un duel, donc le but c'est de gagner le maximum pendant les Winamax Series qui se jouent en ce moment sur Winamax.
Duel entre elle et toi?
Ouais.
Oui.
D'accord.
Il y a déjà un premier qui a déjà été fait déjà, ouais, avec Romain Lévis et Julien Sidmon.
Ouais, exactement. Gagné.
Je crois que c'est Julien, je crois, non?
Ouais, je crois aussi.
C'est Julien,
ouais.
Je crois. Ouais. De très peu.
Cette compétition entre les deux membres du team Wina, c'est totalement ludique.
Voilà,
je veux dire, effectivement. C'est aussi la communauté des suiveurs Winamax, tout ce qui s'intéresse au team, tout ça.
Effectivement, si je gagne 50 000 et qu'elle a gagné 60 000, je veux pas pleurer. Ouais. Le but, c'est de faire le meilleur résultat possible. Et voilà, peu importe. Après, c'est pour le fun.
Le fun, parce que bientôt vont arriver, tu l'as dit tout à l'heure, d'abord le PT Monte Carlo, gros tournoi, les grosses échéances de la saison, avec un Vegas que tu prépares de quelle façon? Gros Vegas cette année? En ouais, famille c'est... comme l'année dernière?
Ouais, en fait, j'ai le même plan maintenant que je fais chaque année, c'est que je pars d'abord 2 semaines tout seul, et puis on retourne en famille 3 semaines au mois de juillet. Donc je fais quand même des gros Vegas et ouais, je quand je retourne en famille,
mois, au final.
Pour, ouais, voilà, au final.
Avec combien de tournois prévus?
Mais c'est toujours ça, il faut un peu improviser sur place parce que ça dépend quand on se fait éliminer du tournoi. Par exemple, le main event, si on perd du main event, il y a plein d'autres tournois possibles, mais moi je prévois de jouer que le main event. Donc j'espère jouer très peu de tournois, ce serait bon signe, mais en principe, je joue souvent, on va dire, entre 10 et 15 tournois.
Ah oui, il y a des joueurs qui en jouent beaucoup plus, finalement.
Ah ouais.
Non, mais il a eu ce volume. T'as déjà eu plus de volume.
Ouais, à l'époque, je restais vraiment les 2 mois, du premier jour au dernier jour. Ça dure 2 mois, les World Series. Mais maintenant, je préfère focus sur les plus beaux tournois. Et ouais, le Main Event, c'est un tournoi souvent, j'apporte beaucoup d'importance à ce tournoi et il est très long. Et donc, les 2 jours avant, je joue pas. Et puis, quand je me fais éliminer j'ai besoin de 2 jours pour m'en remettre.
Alors, tu vois, ça m'étonne. Enfin, ça m'étonne. Comment dire? Ça m'intéresse beaucoup le commentaire sur ce tournoi parce que je crois que c'était il y a 2 émissions. On a parlé de ça, justement. Oui. Et je me demandais, quand on a une carrière aussi longue et riche que la tienne, je comprends la fascination pour le main event, évidemment pour l'histoire de ce tournoi, mais que toi, David, avec tout ce que t'as fait, tout ce que t'as gagné, tu viens ici me dire, quand je saute de ce tournoi, il me faut 2 jours pour m'en remettre. Quand on sait, pour un joueur pro comme toi, les aléas qu'il y a dans ce tournoi, le field, c'est même pas qu'il est éclaté, le field entre les très bons joueurs, les mauvais joueurs, les tous les types de profils, et puis la quantité énorme de joueurs. Pourquoi t'y accordes une importance aussi énorme, quoi?
Ouais, mais c'est un peu comme les footballeurs qui, leur but, c'est de gagner le championnat, la Coupe du Monde. Moi, je me suis fixé comme objectif, quand j'ai commencé, de gagner le main event. Alors, les gens me disent c'est irréaliste.
Mais j'allais te dire la même chose.
Oui, mais d'abord, je l'ai joué 17 fois. Je pense qu'il me reste encore au moins 25 fois où je vais pouvoir le jouer. Donc, sur un échantillon quand même de 45 tournois, c'est un tournoi où on est très deep, on a deep beaucoup de jetons.
Ouais, bien sûr, ouais.
C'est un tournoi très exploitant, il y a beaucoup de mauvais joueurs avec une grosse profondeur.
Et ouais, c'est un tournoi donc qui nécessite... font des accidents terribles pour les mecs comme toi.
Oui, mais quand on a une grosse profondeur, il y a moyen de les éviter, les accidents. Il y a une notion de survie plus importante, il y a moyen de les éviter. Et bien sûr qu'il faudra run good à un moment ou à un autre, mais c'est un tournoi d'expérience. Chaque année, je me sens plus fort que l'année d'avant. Et je suis sûr qu'à un moment, je serai chip leader au jour 5, et là, il y aura moyen je raterai pas ma chance. Ouais. Donc je me fixe ça comme objectif et c'en est presque une obsession.
Parce que les autres objectifs, bah, t'en as rempli beaucoup. J'imagine que t'avais dans ta carrière, t'as gagné
la triple crown.
Ouais, voilà.
Ben oui,
j'allais dire un peu tout ce qui se propose à un joueur de poker professionnel. Donc c'est pas devenu quand même obsessionnel le main event ou
si.
En fait, bizarrement, ça allait depuis la première année que je l'ai joué. C'était genre, je joue au poker, mon but c'est de gagner le main event un jour.
Ouais. Tu comprends, Jérôme, toi? Alors déjà, t'es déjà allé à Vegas pour
jamais.
Wow. Comment ça se fait que t'as pas envie de faire ça?
Parce que j'ai eu très envie. À mes tout débuts, j'avais un partenaire qui m'y a invité, un sponsor même, et puis un peu feignant, un peu le problème dont on parlera tout à l'heure. Beaucoup même. Ouais. J'ai pas osé. Et puis maintenant j'ai un petit garçon.
T'as pas osé?
J'ai pas osé. Ouais. Puis maintenant j'ai un petit garçon.
Donc le problème, parlons-en, c'est l'histoire de la légitimité au poker que j'ai un petit peu aussi. Mais bon, entre ne pas se sentir légitime au poker, ce que je peux comprendre, et aller à Vegas pour vivre l'expérience.
Ouais. J'ai... Alors il y a eu deux choses. Le manque de temps, parce que voilà, c'est une réalité.
Entre ta carrière et puis.
Voilà. Et puis après la vie. Et puis maintenant je suis jeune papa, donc c'est encore un autre délire. Mais ouais, effectivement.
Mais t'as cette envie?
J'ai
tu
cette
veux
envie.
Casser cette barrière et y aller?
J'ai envie d'y aller, et parce que je me suis un peu détaché de ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas que je m'en fous, mais il y a quelques années, je pensais que je deviendrais un bon joueur. Et donc, du coup, j'avais peur d'être jugé par des gens comme David dit ou pas. Un jour, j'ai fait une table Winamax. Ouais. Alors, je vous explique. La table Winamax, Fitoussi, ABK6, Bruel, Bowman.
Winamax Live Session.
Ouais. Et Alonso.
Ouais. Et pourtant t'es ressorti positif.
Ouais. Ah oui. Comment te dire? Mais là j'arrive là, je voulais pas jouer un coup. Pourquoi? Parce que je me disais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi sur le coup que je vais jouer. C'est incroyable, tu vois. Ouais. Et ça me paralysait complètement. Alors j'ai commencé à jouer avec deux rois. Forcément. Mais... Je fous la quatrième, donc forcément. Bon,
c'est
là j'étais à tout petit peu détendu,
comme ton carré.
Et imagine s'il allait roi, le flop, il voit un as. Bon, il se liquide. D'un coup, c'est fini.
Je l'ai concentré.
Mais bon, voilà. Donc Vegas, peut-être un jour, parce que j'ai pris de la hauteur et que maintenant j'ai.
Non, c'est pas peut-être un jour.
Non, mais je vais y aller.
T'aimes trop le poker pour te priver de cette expérience.
Et puis
fais-le. Et puis fais-le avec deux, trois potes, ou en sachant qu'il y a des gens que tu connais sur place. Je t'assure qu'il y a un côté en plus où les gens se retrouvent, que ce soit pour jouer, pour
bien
faire
sûr.
Des restos, des tournois parallèles.
Ouais, bien sûr, si c'est une vie à côté aussi, quoi.
Mais tu vas adorer l'expérience.
En fait, non seulement j'ai pris de la hauteur, mais en plus maintenant j'ai plus aucune ambition par rapport à ce que pourrait être mon jeu. Ça veut dire que je me suis un peu détaché de mes performances. Ça veut dire qu'aujourd'hui je pourrais y aller effectivement pour kiffer, juste avec des potes. Et
non, mais vas-y pour kiffer et puis aussi pour faire un résultat.
Ouais, il y a un truc qui est quand même surprenant. Jérôme, t'as fait partie des meilleurs gardiens. T'as dû affronter les meilleurs joueurs au monde. Quand t'étais dans les cages, même si effectivement c'était ton métier et ta passion, t'avais pas peur de garder tes cages face aux meilleurs buteurs, ou que ça soit penalty et compagnie.
Sauf que dans ma branche, depuis gamin, je me sens légitime.
Ouais, mais est-ce que
c'est-à-dire que j'ai jamais eu peur de rien au fond.
Moi, je comprends ce qu'il dit.
J'ai la carrière que j'ai eue. J'étais parfois numéro 1, parfois numéro 2, peu importe.
Non, mais t'as fait
à chaque
des
fois
des
que j'ai joué, je me sentais légitime depuis petit. Et au poker, c'est la seule fois de ma vie. Pourtant, j'ai essayé je suis devenu pas trop mauvais au golf ou des trucs, machin.
Non, mais moi, c'est pareil, hein.
L'expérience
moi, c'est
poker.
La même chose que lui.
Non, mais toi, tu flippes pas.
Non, c'est pas.
Toi, c'est quand tu vois un as.
C'est pas tant flippé, mais j'ai déjà expliqué plein de fois.
Non, mais la légitimité, il y a pas une question de légitimité au poker. C'est-à-dire que, effectivement, il y a une légitimité au tennis, au foot, on va pas te mettre un débutant.
Mais non, mais non. Au poker, quand tu commences à penser que tu joues depuis des années, que c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu lis deux, trois trucs dessus, que tu fréquentes des mecs, comme Davidi ou d'autres, ce qui est ma chance de par ce qu'on fait ici depuis 10 ans maintenant, tu vas à une table de poker. Bon. Au fond, je m'en fous si Davidi ou Pierre ou n'importe qui dit il est nul. Ça va pas me toucher. Sauf qu'au moment d'aller à la table, je vais me dire bon, j'aimerais bien quand même après toutes ces années réussir un bon coup. Tu vois, ne pas passer tout le temps pour le guignol de Cernis.
C'est,
tu vois,
c'est ça.
Mais je pense que l'erreur. Enfin, moi, si je peux me permettre, parce qu'on est à peu près pareil. Donc, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de s'infliger, de se lobotomiser, à se dire. On n'est pas légitime. À partir du moment où tu as payé ton buy-in et que tu t'assois, tu es légitime. Tu tiens les cartes. Effectivement, il y aura des joueurs qui seront plus forts que toi.
Ça, je crois que c'est très perso, Moundir. C'est vraiment comment.
Mais c'est un travail.
C'est ce que tu dis.
Et c'est un travail. Moi, je me suis retrouvé au Triton. Je me suis pas posé la question en me disant, je suis pas légitime. Je me suis mis à bosser. Je me suis assis. Je dis, les mecs, je vais les affronter et je vais être sans pitié.
Tu sais que je pense de ça, toi, Davidi?
Ouais, je suis un peu là où je suis d'accord avec Moundir, c'est que c'est pas du foot ou du tennis, c'est le concept du poker, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs à la table, c'est pas
mais lui,
tout le monde
problème,
peut
c'est
s'inscrire
pas avec des pros à table. C'est, ouais, ça a été ça son déclencheur. Ouais. Et moi, c'est pareil si je me retrouve avec des mecs dont je les connais pas. Ah ouais. Mais si je connais et que je sais que dedans il y a des pros. Ça devient un petit
peu plus.
Ouais, mais il peut y avoir un peu plus de stress d'affronter des pros, et ça c'est normal. Mais la beauté, c'est aussi la beauté d'aller à Las Vegas, par exemple. Tu verras, tu seras très vite décomplexé quand tu verras des mamies à ta table, des chapeaux de cow-boy.
Il y aura plus beau avec nous, je pense.
Ouais. Non, mais ça c'est vrai. Ce que dit David est vrai. Une fois que tu y es, une fois que tu te plonges dans le truc, tu oublies un petit peu tout ça.
Ouais, je me désinhibe.
Dans l'immensité de la salle et tout ça. Mais peut-être que toi, David, je sais pas, mais forcément, tu as progressé tout au long de ta carrière. Plus tu as augmenté les buy-in, plus tu es allé t'asseoir à des tables importantes. En plus, je sais que toi, tu veux encore plus te spécialiser dans les high rollers. Alors, on va dire, j'en sais rien, moi, à partir de quel moment tu as opéré certains virages dans ta carrière, mais quand tu as augmenté. Il y avait une petite tension particulière en disant merde, j'ai joué à 1000, tiens maintenant je vais jouer à 5000, je vais jouer à 10000. Il y a des types qui vont me regarder, me dire ah, David, il était bon quand il était en 2000, mais est-ce qu'il va avoir les mêmes balls à la table de 10000? Comment tu te sentais, comment t'as fait ça?
C'est pas vraiment la vision des autres, ça j'ai réussi à faire abstraction, mais c'est tout simplement le fait de jouer des limites supérieures et de se demander si on est au niveau. Ouais. Ça peut arriver de se dire, d'avoir un peu, de dire oh là là, j'ai Michael Adamo à ma gauche, et de s'inquiéter un peu, de dire. Simplement, il va me raser, ouais. Donc, d'avoir un complexe par rapport à ça, ça, c'est un peu un travail mental qu'il faut faire.
Tu vois, nous, avec Jérôme, si on a Salvador Adamo, on sera plus à l'aise. Michael, on sera emmerdé.
C'est qu'il va sortir. Je lui dis, je sais pas si elle va être bonne. Franchement, je lui dis, bon, allez, c'est pour les anciens, l'ont fait.
Oui, donc, toi aussi, t'as eu ces fameux joueurs-là, les spécialisés en méga high roller. Petite appréhension quand même.
C'est vraiment purement, je veux dire. Par rapport au niveau, c'est pas par rapport à la perception qu'ils peuvent avoir de moi. Ça, j'ai très vite réussi à faire abstraction.
Ça, c'est important, ça.
Ouais, ça, c'est pas trop un problème, mais c'est purement moi par rapport à moi-même.
Et t'as des mecs qui t'impressionnent encore sur le circuit après tout ce que t'as vu et connu. T'as des gars où tu te dis, putain, lui, il fait des trucs, où il a une approche, peut-être que moi, j'ai pas encore, ou j'ai pas, ou.
Non, il y a comme ça, on va dire, une quinzaine de joueurs au max sur le circuit qui tu te dis, ils sont très forts, et t'as pas envie de les avoir à ta table.
Ah oui, quand même.
Un peu peur. Des gens
comme. Des 3-4 comme ça?
Des gens comme Adrien Mateos ou Jao Vieira qui sont dans le team Winamax, ça fait partie de ces gens-là,
qu'ils sont
très durs à jouer. Jouer, ils peuvent te placer des gros bluffs et à tout moment, et tu dois être prêt. Ouais.
Tu vois, lui, il en a 15 qui lui font peur.
Ouais.
Nous, un peu plus.
Mais logiquement, parfois, la peur, elle doit transcender plutôt qu'elle doit te bloquer.
Mais c'est des approches personnelles, Moundir.
C'est très rare. Et même depuis, ça fait 14 ans que je fais de la TD, de la radio maintenant, et je pense que c'est une force. J'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens de moi. Mais rien.
Ça, c'est génial.
Je peux avoir mon libre arbitre sur Paris, sur Marseille.
Moi, c'est pareil. Je suis comme lui.
Je confirme.
Je peux être dur avec des clubs que j'ai aimés et je m'en fous. J'ai pas les réseaux sociaux. Je m'en cogne complètement.
Ah, génial.
Mais au poker, j'ai toujours eu peur du premier jour où je suis rentré au cercle Gaillon, rue de Berry. J'ai toujours eu peur de ce qu'on pourrait penser de moi. C'est horrible.
Mais c'est fou.
Mais parce que aussi les mecs. Non, parce que les mecs me reconnaissaient quand j'arrivais en cercle. J'étais joueur de foot au PSG. J'allais jouer au poker à Paris. La nuit. Déjà, tu vois, t'as un peu ce côté, tu dis putain.
Alors déjà, on va penser que t'es pas sérieux d'être là. En plus, on va penser que tu vas être le pigeon qui va.
Et pourtant, les gens qui connaissent les cercles savent que les tournois à 18h. Donc c'est pas un truc d'oiseau de nuit. Mais tout de suite, en 2007, quand je suis arrivé au Gaillon pour la première fois de ma vie.
Oh, il y a l'époque. Oh là là.
Mais j'adorais ce cercle à l'ancienne, les boiseries et tout. J'adorais ce cercle. J'ai appris là. Mais la sensation, ce mal au ventre quand tu rentres tout de suite, et j'ai aimé ça. Mais viscéralement, j'ai aimé ça viscéralement. Mais tout de suite aussi, de dire, t'as le mec, le mec va rentrer chez lui, il va dire, t'es joué contre Alonso, c'est une truffe au poker.
Et ça, il n'endort pas de la nuit. Quelqu'un a pensé ça à un moment chez lui.
Et mais t'en viens sur un coup, tu penses que t'es largement devant et que le mec va faire une mise ou te placer un. Et tu vas dire, mais putain, mais je suis derrière tout le temps, tu vois, et après, effectivement, en jouant beaucoup, en jouant souvent, tu passes ce côté un peu technique la première fois, mais le côté qu'est-ce que va penser le mec de moi, dans ma vie, je l'ai jamais eu, et au poker, je l'ai toujours eu, et c'est comme ça.
Voilà. On va marquer une première pause dans ce RMC Poker Show. On revient dans un instant. Bah David Iquita et Jérôme Alonso sont avec nous. Et on va parler avec toi, Davidi, de ce que tu as finalement rendu public sur tes résultats. Franchement,
j'ai pas de questions.
Je trouve que c'était un moment important, mine de rien, dans la communication des joueurs de poker, parce qu'on n'avait jamais vu ça. En tout cas, moi, je n'avais pas vu ça. A tout de suite.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
Deuxième partie du RMC Poker Show. On est là en studio avec David Iquitaï, membre du team Winamax, et Jérôme Alonso, ancien gardien de but, ancienne légende du Paris Saint-Germain, de père en fils. Tout simplement.
De père en fils aussi?
Ah, papa, son père est très important dans l'histoire du club.
Mon papa a créé le centre de formation du PSG, ouais.
Wow, exceptionnel.
Assistant adjoint de Luis Fernandez pendant des années, voilà.
Oh, c'est génial. Il a encore des parts.
Jérôme a été petite mascotte.
Ouais. Non.
Si, il est rentré.
Mais comment tu sais tout ça?
Petit. Bah, je connais Jérôme. D'abord, c'est l'histoire du club. Je la connais pas.
Ah, bah oui, c'est vrai que t'es fait.
Et deux, Jérôme, je connais depuis longtemps. Et la photo où il est petit enfant, où il rentre sur le terrain en petit.
J'ai la main d'Umberto.
Ah, ça, parce que j'avais oublié.
Umberto, le capitaine en 75.
Ah oui.
C'est un PSG Sochaux et je rentre avec le ballon du match devant les joueurs comme ça.
C'est exceptionnel.
Avec le maillot, la tenue et tout. C'est très drôle. Voilà. Ouais.
Davidi, je disais, c'est assez rare qu'on a comme ça publiquement ce que les joueurs gagnent, ce qu'ils racontent. Alors je vais lire le passage et puis après Moundir a probablement plein de questions à te poser. Donc tu dis, ouvrez les guillemets, de points, 2023, je suis parvenu à faire 14 places payées, donc 4 tables finales, le tout pour un gain total de 358 000 euros. En prenant en compte le fait que j'ai participé à 65 tournois et dépensé un total de 331 960 euros de buy-in, je me retrouve avec 22% d'ITM, 6% de TF, un bénéfice net de 26 000 78 euros, soit un
ROI
de 7,86%. Si les résultats n'ont pas l'air exceptionnels sur le papier, je suis tout de même super content de mon année. Je vous explique pourquoi. Explique-nous pourquoi.
Ouais,
Et ça continue l'article après, il y a plein d'autres détails.
Ouais, voilà. En fait, chaque année, je fais ce bilan à la fin de l'année. C'est un peu ma tradition. Et ça fait partie un peu dans les objectifs que je fixe. Et puis à la fin de l'année, je regarde si je les ai atteints. Et je les rends publics pour être tout à fait transparent. C'est une manière pour moi
aussi.
Rien
ne t'oblige à faire ça, hein.
Non, bien sûr. Mais j'ai rien à cacher. Et voilà, ça se passe je le fais depuis longtemps. Et voilà. Donc là, cette année, déjà faire une année positive. C'est déjà positif dans l'absolu. C'est le but quand on joue, c'est de
mais
gagner.
Sur 10 ans, des années positives, t'en fais combien?
Je joue depuis le circuit depuis 2006 et j'ai fait 2 années négatives. Ouais. Donc
c'est dire d'abord la qualité de tes résultats et deux. Alors je sais pas, peut-être je me trompe, j'en sais rien, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit ça envoie aussi un message tous ceux qui pensent et que c'est facile, tous ceux qui se disent je rêve d'être professionnel de poker, parce que quand on lit les gains que les mecs remportent, on se dit waouh putain le gain de ouf qu'il a machin, mais on connaît pas l'envers du décor de la boutique.
On connaît pas nos gains, c'est notre chiffre d'affaires, donc on sait pas combien on a dépensé. Et puis souvent, ce qui va faire la différence, c'est le gros score. Mais le gros score, on peut l'attendre parfois 3 ans, 5 ans. Il y a des gens qui l'attendent toute leur vie. Mais en attendant de faire le gros score, il faut essayer d'être régulier.
Si on parle économie, c'est le gars...
C'est le triton, quoi.
Mais c'est pas ça que je veux dire.
Le
gros score, c'est ce qui permet, en gros, pour un joueur de se mettre un peu à l'abri.
De changer sa vie.
Je sais pas moi, d'acheter un appart, de se mettre tranquille pour ensuite se consacrer au poker, c'est ça?
Voilà, le gros score, on va dire plus concrètement, ça va être des 300 000 euros plus, quoi. Je sais pas, après, le gros score, c'est ça. Et c'est gagner un gros tournoi. Après, ça dépend. Quand on joue un tournoi à 50 000, si on gagne 300 000, on n'appelle pas ça vraiment un gros score. Mais genre, par exemple, gagner un gros main event, un high roller, des résultats comme ça, ça arrive pas chaque année. Ouais. Donc là, par exemple, dans cette année, c'est ce que j'ai expliqué dans ce blog, et c'est la raison pour laquelle je suis content, c'est que j'ai fait beaucoup de deep runs sur les main events. Donc il y avait les WSOP au Bahamas, il y avait l'énorme WPT au Wynn à Vegas où il y avait 3500 joueurs, où il y avait 6,5 millions à la gaine, c'était des énormes main events. Et comme je vous l'ai expliqué avant, mon but, c'est de gagner le main event des World Series. Et donc, les main events, pour moi, je vois ça comme un entraînement. Donc, chaque fois qu'il y a des gros events comme ça, avec une belle structure, c'est les tournois où je me sens le plus à l'aise. Et donc, les Deep Run, ça fait plaisir. À Rozvadov aussi, les World Series Europe, c'est tous les tournois que j'ai Deep Run. Et j'ai terminé chaque fois top 2% du tournoi. Puis voilà, il y a des petites mauvaises rencontres qui ont fait que j'ai pas gagné. Là, par exemple, au Win, j'ai perdu 100e sur 3500 joueurs et je perds 2 rois contre As-Valet. Oh. Et le type qui a gagné avec As-Valet a gagné le tournoi derrière, 6,5 millions.
Ça vaut mieux pas le savoir, non?
Ah, mais tu t'en souviens.
C'est un
peu obligé de savoir, une fois que tu t'es barré, que le gars, il a fini par gagner.
Après, je le vois avec la photo finale.
Ah oui, tu l'as vu.
Non, mais il y a un truc qui est frappant.
Pour dire, ouais, c'est des...
Ouais. Il y a un truc qui est frappant, David et Daniel, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on avait reçu le rédacteur en chef de Poker 52 qui nous expliquait, par exemple, avec un mec comme Daniel Negreanu, qui faisait pratiquement tous les tournois en termes de buy-in, ou qui avait pratiquement plus de 2 millions de buy-in, parce qu'il faisait les 100 000, les 250 000, les main events, les 50 000, et que finalement, il était largement perdant. Et je trouve, David, et en lisant le blog, que j'ai lu 2 fois d'ailleurs pour être bien, bien en adéquation avec ce que je vais dire, c'est que je trouve que tu as démocratisé une certaine vérité que aucun joueur pro n'avait fait, aucun joueur, je veux dire, même
ne
un
voulait,
peu près,
peut-être même
ne,
faire.
Ouais, mais n'a jamais fait, c'est-à-dire qu'on ne le voulait pas aussi, de dire que on peut avoir 11 millions de gains et que quand bien même si on est positif avec 25 000 qui nous reste TTC, ça fait que 2 000 par mois, c'est comme si c'était un gars qui bossait, dans une entreprise, je sais pas, qui est cadre chez Auchan ou peu, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que t'as fait quelque chose d'énorme qui va réveiller aussi certaines consciences et tu l'as soulevé, Daniel, par rapport à ceux qui idolâtrent un petit peu le rêve, parce que le poker, ça reste du rêve, bien évidemment. Ils rêvent de remporter le main event. Je rêve d'être champion, d'avoir ce putain de bracelet. Mais, peut-être qu'il y aura une...
C'est génial, effectivement.
Ouais, c'est génial.
Il y a de gens qui pensent que les de poker tous gagnent $1 million par mois, c'est incroyable.
Et je trouve ça, c'est très très bien.
Les manières collectives, c'est ça. En fait.
Est-ce que ça a fait parler, d'autres se sont dit nous aussi on peut faire ça, ou ils t'ont dit pourquoi t'as fait ça?
Non, franchement pas vraiment, Après, justement, en parlant de Negreanu, il fait ça aussi chaque année. Il publie ses résultats. Et l'année passée, il a publié qu'il a perdu 2 millions dans l'année. Wow.
Sponsoring compris.
Non.
Ah ouais, d'accord. Non.
Et il a perdu 2 millions dans ses résultats nets sur l'année. Donc, il fait partie des autres joueurs transparents par rapport à ça. Après, on voit quand même que dans sa carrière, il le fait aussi chaque année, qu'il a quand même beaucoup gagné. Mais effectivement, maintenant, surtout de nos jours, il y a beaucoup de tournois à 100 000. Finalement, les gains, ça veut plus dire grand chose, effectivement. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui vendent beaucoup de leurs actions. Et donc parfois, et j'en connais des joueurs qui ont gagné des tournois à 100 000 et qui en fait ont touché zéro parce qu'ils sont stackés par d'autres joueurs.
Oui. Une autre donnée qu'on évoque peu sur les joueurs et sur les gains, c'est combien vont directement dans leur poche s'ils ont été stackés à 50 ou plus.
Ouais, voilà. Et puis parfois ils ont joué tellement de tournois, d'autres tournois à 100 000 que quand ils ont gagné 2 millions, c'est ce qu'ils avaient perdu avant. Et donc ouais, ça fausse un peu les classements de poker et les gains.
Alors ça fausse le classement gain. Après, ça fausse pas le classement qui nous intéresse nous, c'est à le côté sportif, c'est à la performance. Ouais. Le mec qui démarre un tournoi, il va au bout du tournoi, ça enlève pas déjà ses qualités de joueur, ça enlève pas sa réflexion, sa classe, le fait qu'il soit fort à une table. Après, le côté économique, c'est autre chose. Ça enlève pas.
Il y a plusieurs classements. Il y a le all-time money list qu'on appelle, et ça c'est combien on a gagné. Mais ce classement, il est faussé parce que c'est un chiffre d'affaires. On ne sait pas combien le bénéfice.
Et toi, t'aimerais quoi?
Il y a une polémique là-dessus.
Est-ce qu'il y a derrière chez toi une volonté de dire fiez-vous à un autre classement ou mettons un peu d'ordre dans les classements pour voir qui sont réellement les bons joueurs?
C'est non, ça qu'il y a derrière. Je pense que le classement GPI, il est bien. C'est un classement qui regarde la régularité. C'est un classement qui est bien. Après, je trouve que dans le Hand'em Mob, ce qu'il devrait faire, c'est au moins enlever le buy-in. Si tu joues un tournoi à 50 000 et que tu gagnes 100 000, on devrait écrire 50 000 de bénéfices. Si tu as re-entry 2 fois le tournoi à 50 000,
ou 4.
Et que tu gagnes 100 000, on doit écrire 0 ou même. Tu peux pas être considéré d'avoir un résultat alors que tu n'as pas gagné d'argent.
C'est comme moi, hein, dans mon Eddon Bomb, il y a 3 000 $, j'ai pas gagné 3 000 $.
Si, parce que tu as été invité.
Bah donc j'ai pas gagné 3000 dollars. Mais non, j'ai reversé la moitié, voyons, j'étais stacké à 5.
Ah oui, c'est vrai ça, tu parles de non mais ce qui est important c'est que tu as fait un des deux ITM, je veux dire c'est ça qui est beau.
Oui, d'accord,
c'est mais ça, c'est ça le c'est
mon oui, alors justement, stock. Qu'est-ce qu'on retient on retient que j'ai fait place payée et plus que les fameux 3000 où j'ai dû rendre la moitié.
Bah, ce qui est logique.
On retient que pour une première fois dans ma vie, j'ai fait ça et que c'est chouette.
Il était stocké à 55 ans.
Mine de rien, un an après, on en parle encore. C'est ma petite fierté. Tu vois, je me fais mon petit bain de pied là avec ça. Tu vois, et hop, voilà.
On est assez sévère avec nous-mêmes pour parfois un petit peu.
Donc, c'est pour ça que je t'encourage à aller à Vegas. Parce que quand,
mais je vais y aller.
Quand tu le feras, tu seras super content.
C'est sûr que je vais y aller.
Je suis pas d'accord dans ce que tu. Il faut que tu fasses San Remo d'ailleurs.
Ah oui,
il y a San Remo.
T'es à côté de chez toi.
Il y a l'Italian Poker Tour.
Super série de tournois.
Je suis pas prêt, putain.
On va parler à on y sera. On tiendra la main, t'inquiète pas.
On y sera.
Non, mais Daniel, ce que je voulais dire, c'est que tu disais tout à l'heure que tu avais pratiquement les mêmes symptômes, si on peut parler comme ça, Jérôme. Mais excuse-moi, quand je t'ai vu jouer à Vegas, quand tu as fait ce que c'était un 1500 dollars, c'est pas un petit tournoi, 1500 dollars.
Mais là, je me suis décomplexé ce jour-là.
Mais le mec a joué comme un gamin qui rentre dans un parc.
Je vous ai écouté la semaine dernière et Daniel parlait des endroits où il pourrait être à l'aise.
Ah oui,
jouer. J'ai écouté cette émission, c'est très intéressant. J'ai un peu cette sensation-là. Et j'ai tout de suite, pas bien joué, mais j'ai tout de suite compris le mécanisme du poker parce que je me sentais bien au gaillon. C'est un endroit
Absolument.
Qui me parlait.
Ça, c'est bien
c'est un endroit qui me parlait et j'ai appris vite, peut-être pas bien, mais vite en tout cas, parce que j'étais bien là-bas. Et ce que je disais la semaine dernière, j'ai besoin de me sentir bien pour jouer bien, ben je suis exactement comme
écoute,
ça aussi.
Regarde, encore expérience personnelle, et peut-être que des gens qui nous écoutent pensent la même chose. Cette année Vegas, c'était la deuxième fois.
Hein. Deuxième fois. Ouais.
La première année, tu te souviens que j'ai fait un tournoi. En plus, il y avait les caméras de Wina qui filmaient un peu parce qu'on faisait un truc.
T'as déchaté, j'avoue.
Je te jure, au-delà du fait que j'ai déchaté. À table, mais c'est pas que je me sentais petit.
Ça se voyait sur ton visage de ouf.
Mais je te jure, j'ai l'impression d'abord que j'étais coincé entre deux personnes et qu'entre deux personnes, j'étais Jésus dans la crèche, tu vois.
Non, David,
j'étais tout petit, tout ridicule, j'ai l'impression que
il avait une tête de notaire.
Déjà, il se sentait petit.
Déjà, il a tout tombé, mais que même à un moment, j'ai fait brelan et j'avais l'impression que j'avais 7 et 2. C'était mais complètement fou.
Il a passé la quinte flush.
Complètement fou. C'était fou, la sensation que je ressentais. Et pareil, Cash Game, quand on a joué ensemble.
Il a mal à la session.
Petite vieille que tu détroussais.
Ah oui, d'accord.
Tu vois,
arrête de dire ça.
Et ben là, lui, je sentais qu'il était super à l'aise. Et moi, à côté, et ben j'étais pas à l'aise. Et même à un moment, j'ai fait brelan, je l'ai joué petit bras.
Ben oui, mais moi, j'y m'ai énervé.
Je joue au Cash Game à Marrakech où plein de gens flippent de jouer parce que ouais, tu
Et là, t'es bien.
Et moi, en fait, je suis bien, je suis à l'aise parce que les gens parlent, on discute. Moi, si on parle et on discute.
Mais tu sais qu'au foot, c'était pareil. J'avais des endroits où je savais que je ferais un bon match.
Ah bon?
Toute ma carrière.
Ah ouais?
Ah ouais. Quand j'étais à Paris, au Vélodrome, j'ai pas raté un match. J'ai fait 6 classicos, j'en ai perdu un. Tous les derbys Saint-Etienne-Lyon. Je savais que j'allais faire un bon match.
Alors que c'est a priori le match le plus difficile. T'es un peu tordu.
Mais non, mais ça, c'est parce que ça te transcendait.
Oui, mais j'avais besoin. J'ai toujours. Bon, au parc, c'est pas pareil, c'est ma maison. Mais par exemple, au Vélodrome ou à Gerland. Et puis je sais qu'à Gerland, pour moi, c'était hyper chaud. Je me suis toujours senti bien à Gerland. J'adorais jouer dans ce stade. Pourquoi ? Tu vas à Saint-Symphorien, à Metz, j'ai jamais réussi un putain d'arrêt. Je crois. Jamais.
Il y a des stades. Merde, à Saint-Symphorien.
Ouais. Tu vois, bon, voilà. Donc, il y a aussi dans tout ce qu'on fait un endroit. Je suis comme Dan, où je pense que, en tout cas, c'est une faiblesse certainement, mais j'ai besoin de me sentir bien pour être bon.
Ouais, je comprends ça. Par exemple, jouer à domicile au foot, c'est presque étonnant comme une équipe a tellement un avantage quand il joue à domicile. Tu vois, c'est un
surtout
truc c'est très psychologique.
Encore, il y a 20 ans, 30 ans, je comprenais l'idée parce que il y a certains stades où on se permettait des choses, où les arbitres pouvaient être un petit peu influencés par le cas. Mais aujourd'hui, je vois plus trop pourquoi ça
peut même être l'inverse.
Continue d'exister.
Ça peut être l'inverse. Regarde l'OM l'année dernière
à domicile,
gagne quasiment gagne son podium à l'extérieur. Parce que justement le Vélodrome, on sentait bien qu'il inhibait certains joueurs complètement. Et l'année dernière, Marseille, c'est un exemple typique d'une équipe qui a construit sa saison à l'extérieur.
Après ça, David dit c'est pas complètement con ce qu'on dit parce que quand on regarde dans la tête d'un pro. Et que on vous voit même en marge des tournois, on sent que vous faites tout pour vous préparer à être à l'aise aussi. Ou t'as tes petits rituels, la façon dont tu prends le petit déj, la façon dont tu rentres dans la salle. Après, comme là, globalement, vous les connaissez tous, les salles, toutes, pardon, les salles où vous jouez, vous êtes plus à l'aise. Mais néanmoins, au préalable, il y a un travail pour se sentir à l'aise.
Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que ça me parle, que ouais, c'est très psychologique. Et j'ai beaucoup, il y a des endroits où je me sens plus à l'aise que d'autres.
Alors, c'est où, par exemple, que toi, tu t'arrives, tu te dis, je sais pas.
Bon, d'abord, c'est Vegas, c'est le top.
Mais est-ce qu'à Vegas, t'as un spot où tu te sens mieux?
Ah non, c'est Vegas.
Ah non, c'est pas, il peut y avoir un spot, ah ouais, à Vegas.
Non, justement, à l'époque, les championnats du monde, c'était au Rio. Et ils ont bougé d'endroit. Alors, j'avais un peu peur parce qu'au Rio, je me sentais bien. Ouais. Et très vite, il y a eu cette atmosphère World Series qui ont fait que je me suis senti bien. Après, à Monaco aussi, j'aime bien là-bas la salle des étoiles. Je suis à domicile, je me sens bien. À Barcelone, il y a comme ça des endroits positifs. Et puis, par exemple, Rozvadov.
Je vais le dire.
Rozvadov, pendant 5 ans, j'ai pas fait une place payée. J'arrivais pas.
Il y a une explication rationnelle.
Le nom est pas ouf.
Sans doute que je me sentais pas bien. Il y a un côté déprimant là-bas.
Le nom, ça sonne pas.
C'est en Tchéquie, autour d'une forêt, il y a rien. Et cette année, j'y étais et j'ai fait genre un travail psychologique dans ma tête. Ça m'a fait penser à, je sais plus, je crois que c'était Gauthier, comment s'appelait l'entraîneur de Saint-Etienne du PSG de l'année passée,
Christophe Galtier,
ouais. Je sais pas, il nous avait parlé avec Winamax quand il était entraîneur de Saint-Etienne, on avait fait un exercice et il avait expliqué un truc. Quand ils sont en déplacement, il dit à leur équipe, on est chez nous. Il leur, psychologiquement, il leur prépare comme si on joue à la maison, quoi. Et moi, je me suis préparé comme ça à Rozvadov. J'étais là, je suis chez moi. Et cette année, il faut que je casse la glace. Je voulais absolument faire une place payée pour casser cette malédiction. Et j'ai dit Brun le main event. Et j'ai senti qu'il y avait comme ça, c'est une fois que tu prends conscience.
Le déclic.
Ouais, une fois que tu prends conscience du truc, t'es aware, comme il dit Jean-Claude Van Damme.
Et ben,
directement, tu reviens dans ton moment présent et tu casses. Ouais, et
David, quand tu dis 2024, je vais me concentrer sur les high rollers, ça veut dire quoi? Quel type?
Non, j'ai pas tout à fait dit ça, je pense. Ma motivation, et là où je me sens le plus fort, c'est les main events. Et donc, c'est vraiment sur les main events que je veux me concentrer.
D'accord.
Et après, je joue les high rollers jusqu'à 25 000 euros. Et au-dessus, c'est vraiment s'il y a des très beaux tournois que j'envisage de les jouer. Je travaille pour, mais c'est pas l'objectif à court terme. Ouais. L'objectif, c'est vraiment de perfer sur les gros main events.
Ouais, parce que une fois, Daniel, on avait Karl Chapégassien, que tout le monde connaît maintenant, qui était au téléphone, qui était ici en studio, et au téléphone, on avait Davidi, et justement, on parlait justement de ces grosses parties où tu disais, moi jamais j'irai me risquer là-dessus parce que ça risque de toucher ma bankroll et carrément ma carrière. À quel moment tu t'es dit, j'ai envie de passer à l'étape carrément, le premium, ce qu'on appelle le premium, de se faire justement les 50, les 100, les 25?
En fait, pendant un an ou deux, j'ai joué ces tournois-là, bien sûr, avec des stackers, je vendais pas mal. Et je me suis rendu compte que, tout simplement, le ROI, comme on parle, il est petit. Mais même pour les meilleurs, un bon joueur, quand il joue un triton, il a un ROI de 5%, 10% maximum. Alors sur un main event, tu peux avoir un rendement de 200-300%. Donc c'est pas les mêmes rendements, mais moi je me sens très à l'aise contre les joueurs amateurs. Donc par exemple les joueurs Triton, il y a des tournois très chers où il y a un mélange de joueurs amateurs et pros, et les pros jouent pas bien contre les joueurs amateurs. Et moi j'ai un avantage sur eux.
Les entrepreneurs aussi, hein.
On a de l'espoir.
j'ai un avantage sur eux parce que je les exploite bien, mais en même temps je dois être au niveau face aux meilleurs joueurs du monde, qui sont très précis techniquement et très bons. Et donc voilà, je m'entraîne. Moi, le tournoi qui m'intéresse, c'est ce gros tournoi à 200 000 euros Triton, où il y a 50% de businessmen et 50% de pros. Sur invitation, c'est ce tournoi-là que je travaille pour pouvoir le jouer bientôt.
Jérôme,
Yes.
Parle-nous un petit peu maintenant de ton poker, de ton field à toi. Tu joues toujours avec les amis niçois, là, vous aviez une bande et tout.
Toujours. Enfin, alors, maintenant, moi, comme je vous l'ai dit, depuis que, quand t'as un petit bébé à la maison, avec neuf furieux sous la terrasse, ça marche pas.
T'en as neuf?
Non, neuf copains qui viennent à la maison.
Ah, d'accord, ok.
Non, j'ai pas fait neuf d'un coup.
Non, il a pas encore mis les mots, mon poker.
Non, j'attends d'ailleurs pour m'y remettre que mon fils fasse croupier, j'y filerai un petit billet. Non, avec le bébé, c'est dur, avec le boulot, c'est dur. Et puis, encore une fois, c'est fou, c'est comme un n'importe quel sport en fait. C'est-à-dire que moins tu joues, plus t'es bidon, quoi. Tu vois. J'ai rejoué au bout d'un an l'année dernière. Mais j'ai dit, mais mon Dieu, mais mon pauvre ami, quoi.
Ah, oui.
Tu sais plus lire une main, tu sais plus les séquences de relance sont catastrophiques, les séquences de mise encore pires. Et tu dis waouh, donc il faut jouer.
C'est une mécanique.
C'est une vraie mécanique et c'est comme un sport. Je trouve que si tu t'arrêtes, tu deviens bidon. Voilà. Donc j'ai très envie de m'y remettre. Le petit maintenant est grand et.
Mais tu joues beaucoup en ligne, toi.
J'aime trop le live. Ouais, moi, j'ai besoin de servir, de recevoir les copains à la maison, te faire la pizza, te servir un verre de rosé. Pour moi, le poker, c'est aussi un cérémonial.
Moi, j'adore ça aussi.
Voilà. Mmh. Moi, c'est autant. On s'était fixé entre potes de dire voilà, si on part tous bouffer au resto, la soirée nous coûte 200 balles. À la maison, on joue pas plus de 200 balles. Moi, c'était ma règle absolue chez moi.
C'est bien.
Voilà. Et comme ça, il y a pas de dispute, il y a rien. On se fait des pizzas, on se fait le rosé. Évidemment, on se prend la tête, les jetons volent, les machins. Mais voilà, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Et j'ai très envie de m'y remettre. Mais voilà, j'ai quand même envie de bien jouer. Quand tu étais sportif, tu as envie de performer avec tes potes, d'être bon, en tout cas d'être pas trop mauvais. Et là, j'ai envie de m'y remettre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je regarde beaucoup dans la tête d'un pro.
Ah oui.
Donc, c'est un programme absolument extraordinaire.
Dans la tête de Mundir, peut-être, non?
J'ai vu aussi. Je t'ai vu. Chambrer les gens. Je t'ai vu. J'ai tout vu.
C'est un travail. Où, en fait, le poker, c'est facile quand tu chattes toutes les mains.
Mais qu'est-ce que chattes toutes tes mains?
Il y a un épisode où c'est mon
chat. Mais chatte de quoi? Mais c'est incroyable. C'est ça qui est énervant chez Daniel. Alors, ça, écoute-moi. Alors, autant il y a plein de choses
qu'on n'a pas le droit de dire qu'on a de la chance de temps en temps.
Mais il faut bien que tu chattes à un moment. Oui. Mais quand tu opères,
c'est plus facile quand sur tout un épisode tu touches tout.
Je touchais pas tout.
Bon d'accord.
Ça a été bien monté.
C'est le monteur. On va appeler merde, comment il s'appelle? J'ai oublié. Régis.
C'est que le meilleur entraînement pour quelqu'un comme moi qui joue assez peu en ce moment, le meilleur entraînement. Mais moi j'ai aucune honte à dire que je relis beaucoup.
Ah bah c'est super.
Les bouquins de l'époque et je regarde beaucoup dans la tête d'un pro. Voilà. Et pour moi, pour m'y remettre, c'est.
De tous les clubs où tu, enfin, dans tous les clubs où t'es passé, à chaque fois, t'as trouvé des joueurs pour jouer.
Alors, je m'y suis mis à Paris à la fin. Le plus, voilà. Je m'y suis mis à Paris à la fin avec la bande de Falabrac, là. Et Roten, Mendy. Vicage jouait déjà.
Ah, Vicage, ouais. Bon.
Peggy Louindoua a très vite bien joué aussi.
Ah oui.
Voilà. Mika Landro, moi, Yepes, qui a lâché l'affaire assez vite, Doudou Cissé. Enfin, voilà, toute bande de potes. Et puis après, à Nantes. Là, à Nantes, j'avais une vraie table de fou.
Ah oui.
Ah, là, c'était autre chose avec Ivan Klasnitch, Mamadou Bagayoko,
Darche.
Ouais, il y avait Stéphane Darbion qui jouait, tout ça, machin. Voilà,
il y avait un peu de niveau ou c'était du
gameplay? Ils ont vite mieux joué.
Parce que c'était un peu comme Michael Jordan.
On jouait deux fois par semaine, toutes les semaines. C'est toujours pareil. On a progressé hyper vite. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que je progressais hyper vite parce que je lisais beaucoup, je jouais beaucoup, je regardais beaucoup. Ça m'intéressait. J'étais viscéralement attaché à ce jeu. Et puis après, quand j'ai arrêté ma carrière, là, oui. Alors, le premier investissement, quand j'ai déménagé, après ma carrière, table de poker au milieu du salon.
Ah ouais.
Ouais. La vraie en bois, l'ancienne, tu sais.
Ouais.
Je voulais racheter la même quasiment qu'il y avait au Gaillon, parce que j'étais bien, ça me sentait bien. Et donc chez moi, c'était toutes les semaines, jusqu'au jour où j'ai cassé la table.
Ah ouais. Il y avait un peu de nervosité quand même.
Elle va, ouais, demande à Eric Roy, tu vas, il va te prendre 2-3 trucs. Et puis voilà, et puis après j'ai aussi travaillé tout ça, machin.
Eric, il est agaçant quand il joue au poker, non?
Eric, il est
déjà par internet, à distance sur les tournois live, online, il était agaçant, alors j'imagine en vrai.
Il y a deux problèmes, Eric, c'est qu'il joue bien.
C'est vrai qu'il joue pas mal, ouais, c'est vrai.
Hein? Il joue bien et il chatte.
Ouais,
ça fait deux trucs quand même.
Non, en fait, j'ai compris.
J'ai fait des parties avec lui, c'était insolent.
Mais en plus, il a une vraie séquence de mise. Non, mais il joue vraiment. Bah, c'est un mec qui est très très intelligent. Mmh. Donc il joue très bien.
Ah, j'ai compris. Quand vous dites vous chattez, ça veut dire qu'il open avec des mains un peu loose, comme on dit, et il chatte son board.
Non, il peut faire de lui deux rois, moi deux as, et il fait quinte.
Ah d'accord, ok.
Voilà, avec son roi. C'est-à-dire que même pas, il prend le roi, il fait quinte. Tu vois? Là, j'avais cassé une chaise ce jour-là.
Et il dit-lui qu'il faut pas être nerveux.
Il doit gérer ses émotions.
Oui, ça y est. Ouais, justement, on est toujours pareil à ce qu'on faisait dans la vie et ce qu'on fait au poker. Non, j'arrivais à gérer des frustrations énormes au foot.
Il faut back off.
Et au poker, dès que j'avais un bad beat, j'avais envie d'insulter le mec, mais toute la nuit, je lui écrivais.
Récemment, j'ai eu une période qui a duré 6 mois comme ça. Et là, ça fait un mois, les parties que j'ai refait, je me suis totalement à nouveau calmé.
Ouais.
Mais j'ai eu une période de 6 mois, je ne supportais pas une variance, un truc. Je ne sais pas pourquoi, j'étais en tilt immédiatement. Ouais. Notamment quand
t'as vu tilter Dan déjà, Moundir?
Daniel, mais je l'ai vu.
Rarement joué ensemble.
Ah, c'est vrai?
J'ai déjà vu tilter plusieurs fois, mais c'est un scandale.
Sauf au whip, il y a deux semaines, mais quand il trouve que c'est malin de faire sauter son pote à l'étable. S'il m'avait pas prévenu qu'en fait, il fallait être chien, même quand
il est malin,
moi, je suis arrivé en chevalier blanc.
Je vais coller à
trois. Je suis arrivé chevalier blanc. Bah oui, mais.
Parce que je l'ai collé au terrasse.
Moi, très bêtement, j'aurais foldé.
Mais je vais pas folder à trois.
Mais juste parce que c'est toi, et pour pas t'éliminer, j'aurais foldé.
Comme je sais que c'est bientôt fini, un dernier hommage à Davidi, parce que le mimétisme pour moi compte beaucoup. Et avant, je jetais mes jetons comme ça, dès que je misais. Et maintenant, je fais comme Davidi, je prends comme ça et je poste.
Bah, tu vois, déjà,
il y a plein de gens qui ont imité
ça. Je faisais tellement classe.
Alors attends.
Non, mais même pas, il fait. 45 000.
Moi, je connais une joueuse de poker amateur qui voulait tout le temps mimer exactement ce que faisait Davidi.
Ah ouais?
Elle trouvait que c'était celui qui avait les meilleurs.
Il
est beau.
Posons la question à Davidi. Il est professionnel, il a 11 millions de gains. Est-ce que tu joues tes copains à la table?
Ouais, voilà, je vais pas me mêler dans votre querelle.
Je savais pas qu'on était professionnel et qu'on avait 11 millions de gains, on avait échappé.
Mais justement.
Donc il présente le cas de figure en disant, toi qui es professionnel, qui a 11 millions de gains. Bah oui,
c'est tout ce que nous on n'est pas.
Donc moi, quand je suis à la table, on va dans un tournoi machin. Ouais. Surtout un tournoi amateur comme le WIPT, hein, tu vois. Je crois pas que.
À 400 balles,
je crois pas que pour te sortir, je te paye.
Voilà. C'est quoi on a une seconde, c'est quoi la main?
Mais la main, je vais t'expliquer tout de suite.
Je fais all-in alors que.
Non, la main, c'est pas ça.
Et lui, il me paye alors.
Il envoie 40 blindes.
Moi, je pense qu'il va folder.
Il open à 1200, j'ouvre les rois. Je lui fais 5005, donc je lui montre bien que je le arrache pas.
Oui, tu dis, oui.
D'accord, donc retire-toi.
Il y retourne.
Il prend même pas, tapis.
Mais non, c'est pas cette main-là où je t'ai fait.
Non, c'est la dernière que je sens avec As-Roi et As-Valet.
Mais non, c'est pas ça.
Exactement.
Bon, Jérémy est là, il peut.
Bon, j'ai collé la As-Valet.
Non, c'est pas ça. La main dont tu parlais, qui a énervé Daniel, c'est passé la celle d'avant.
C'est au terrasse avec As-Dame.
Je sais pas, mais je sais
avec
que
As-Dame,
tu le racontais, Daniel.
C'est comme ça l'arrange lui.
Bon,
allez, okay. On revient dans un instant pour jouer. Jérôme, tu vas devoir jouer face à Davidi.
Monsieur JV, bonne journée.
À tout de suite.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Moundir.
Troisième partie du RMC Poker Show avec Moundir, on est là et on accueille Davidi Kitaï et Jérôme Alonso ce soir et Jérémy Servin qui nous rejoint.
Bonjour patron, on va jouer.
Bonjour
patron.
On n'appelle pas Virk à la Musa aujourd'hui, on va pas faire cet affront à Davidi Kitaï, c'est lui l'arbitre.
Ah oui, ok.
Et ben on va jouer, allez, jingle.
RMC Poker Show.
Dans la tête d'un fiche.
Bon, bah, Jérôme, va falloir.
Tu peux parler en dernier?
Va falloir. Non, tu vas parler en premier.
En premier, c'est les joueurs invités.
On va te faire travailler déjà.
Le regard de Davidi.
Jérémy, je voudrais pas que tu m'en veuilles, mais comme tu as préparé et que tu nous as dit l'actu, on l'a pas fait. Vas-y. Tu penses qu'il y a des choses qu'il faut vraiment dire là?
Bah, le BPT, c'est un petit peu plus loin. On peut en parler la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
L'Irish Poker.
Avec non, ça a été un succès.
Très gros succès.
Je ne connais pas le Finlandais qui a gagné. Théo Lorila.
Lorila.
Il a gagné moins que le deuxième parce qu'ils ont dit la 3 et que
Lorila. Ok.
Allez, les amis, direction Las Vegas, les célèbres WSOP. Ah. Là où tu n'es jamais allé, Jérôme.
Non, mais on va bien déjà.
On va jouer un tournoi à 5 000 $, 6 max. On est 6 à table du coup.
Ouais.
C'est un tournoi que Davidi aime bien. Le cinquième niveau du D1. On a un stack de 65 000 aux blindes 300-500. Tout le monde s'est couché, sauf la petite blinde.
Ça fait combien de blindes, c'est à peu près?
Je sais pas, plus de 100. Hein.
Davidi,
un peu plus de 100. Hein.
3 000 points, combien?
65 000 de tapis aux blindes 300-500.
20 blindes?
Non. 300-500 les blindes.
Ah.
Bon, on est large.
À 150 blindes.
Ouais, au moins 150 blindes.
On est un petit peu moins.
Très,
très large. Okay.
Donc la petite blinde nous relance à 1 800. Nous, on est de grosses blindes.
Ah, tout le monde a fold.
Tout le monde a fold. Nous, on est de grosses blindes. Et on ouvre As-Roi, As de cœur, Roi de trèfle.
Il a fait combien, la petite blinde?
Il a fait 1 800.
As de cœur, Roi de trèfle.
Ouais.
Parce que c'est beau.
Et il a un plus petit tapis que nous. Il a 43 000.
D'accord, il fait 800.
Ouais. On va demander à Jérôme Alonso son avis d'abord. N'aie pas peur de nous donner ta réflexion.
Parce que c'est un des très, très, très rares cas dans cette configuration-là où, avec un très gros jet, je pourrais swap play une grosse main. Si vraiment on est en bataille de blindes, je suis à la douce. Mais c'est un des rares cas où je pourrais le faire. Okay. Vraiment, ça m'est arrivé parfois de sloper les As ou les Rois dans cette situation exacte-là.
Donc de juste payer la relance de la petite blinde.
Mais ce coup-ci, je vais quand même lui envoyer... Le royaume, une petite secousse. Et,
tu vas lui revenir
dessus. Il a fait 1008. Je vais lui faire 4005.
Ok, Daniel.
J'allais dire 4000.
Ouais.
Ok, juste ouais, un min-raise, quoi. Moins de dire.
C'est intéressant ce que dit Jérôme. Sur 300-500, quand c'est comme ça, j'aime pas trop faire gonfler le pot tout de suite. Moi, j'aime bien attaquer quand c'est 600-1200. J'aime bien la jouer tricky parfois où je la flatte pour payer. Je pense que moi, je vais flat. Voilà, je vais flat à ce moment-là.
Tu vas just call, ok.
Ouais, je vais just call. Ouais, just call.
Dav, on lui revient dessus ou on flatte?
Mais flat, ça peut avoir son sens, oui. Parce qu'on trappe un peu notre main, on est en position et il va pouvoir bluffer sur nos cartes, il va pouvoir se value cut sur nos cartes. Donc ça a du sens, mais comme on est quand même très deep, je préfère quand même 3 bêtes pour prendre de la value directement. Par contre, comme on est très deep, il faut faire un peu plus cher. Je mettrais 7500, 8500.
Ah oui, c'est beaucoup.
Ah oui. Ok.
Et donc, on s'en fout si sur ce 3-bet imposant, il fold, c'est pas grave, on prend le coup et puis c'est tout.
Voilà, ouais, ouais. S'il fold, c'est pas trop grave, mais en général, les gens, ils foldent pas beaucoup.
Donc finalement, pour toi, David, c'est flat ou gros 3-bet.
Gros
3-bet.
Ouais,
ouais. C'est quoi le défaut d'avoir fait comme on voulait faire, 4000-4005 là-dessus?
Parce que tu dévoiles tu représentes plus de force que ce qu'est vraiment ta main. Ça fait limite piège parce que tu fais pas cher. Ça fait j'en reviens avec moi. Ça fait un peu.
Ça veut dire que tu ferais ça si t'avais les rois ou les as?
Non, même pas justement. Je
ferais ça avec valet 10 de cœur, comme ça.
En fait, je le ferais jamais. En fait, ouais. C'est pas un sizing que j'utilise avec cette profondeur.
Ok,
ouais.
Très bien.
Nous on a fait 5005. Et ça a été payé assez rapidement en face. Le pot fait 11005. Le flop vient 9 de trèfle, as de carreau, 5 de cœur.
Magnifique.
Flop parfait pour nous. Mmh. Check de la petite blinde et c'est à nous de parler. Je rappelle, le pot fait 11005.
Une fois qu'on a fait ça. Il est rainbow le flop,
Ouais. Trèfle, carreau, cœur. Le pot fait 11005 et donc c'est à nous de parler.
À partir du moment où j'ai tribet, je vais continuer à. C'est pas un don. Pour moi, je reste dans le. Je vais continuer à leader.
Continuation bet, ouais.
Ouais, je vais garder le lead dans ce coup parce que. Voilà, je veux garder la dynamique du coup en avançant, un peu comme un joueur de tennis qui joue en avançant le coup tout le temps. Si j'ai pris l'initiative dans le coup, je vais la garder.
Et dans un pot qui représente 11005, tu fais combien du coup?
Dans le pot qui va faire 11005, je pourrais être tenté de lui faire croire que j'ai rien en faisant plutôt un gros bet sur ce coup-là.
Ouais.
Donc peut-être 2/pot.
Ok. Daniel?
Je suis en train de me demander ce sur quoi il va me mettre si je mise. Est-ce que du coup je mise sur quoi je vais pouvoir prendre des sous, quoi, parce que si je mise, il peut logiquement se dire bon bah il a touché son as, donc je peux le faire se barrer. Donc il y a des cas où je peux checker là-dessus aussi, parce que je vois pas bien comment je pourrais être en danger puisqu'il y a pas de tirage. C'est possible que je fasse ça et après le truc c'est que souvent je réfléchis à ce genre de choses là et qu'après j'agis de façon un peu pas bête mais systématique et que je me dise bon allez la plupart du temps tu sais bête donc vas-y c'est bête,
ah ouais, c'est
ou je vais un peu à la facilité du truc
quand t'es
à
l'habitude. Toi tu sais bête souvent, tu mises cher sur un board où t'as pas touché
et ben là en l'occurrence j'ai touché il m'arrive de réfléchir pour que ça serve à rien en fait et que j'aille c'est bête finalement et que donc je sais bête, le pot il fait 11, que j'aille mettre 5.
Ok, mon
dieu. De cas de figure pour moi, à partir du moment où j'ai flat et que lui a check, sachant que c'est lui qui a open.
Tu vas continuer à check?
À ce moment-là, moi, dans ma tête, je dis, je le joue sur deux streets, d'accord? Donc, turn et rivière. Néanmoins, là, et hors de question que je check pour camoufler, je vais juste faire un tiers. Je fais juste un tiers. J'ai pas besoin de faire grossir le pot. Le pot est déjà
et
conséquent.
Quel message tu lui envoies en faisant ça?
Que je peux avoir paire de 10, paire de 9, que je représente pas l'as, donc peut-être un petit 4005, un truc comme ça.
Ok, Dav.
Ouais, sur les boards avec ESI, quand on est l'agresseur, on doit tout le temps ses bêtes au flop. Et parfois, c'est dur à faire quand on a par exemple deux rois, deux dames, deux valets.
Ah, on doit tout le temps ses bêtes, même quand on n'a pas l'as.
Ouais, même quand on n'a pas l'as, ouais, on est l'agresseur, donc on doit ses bêtes sur les boards ESI. Après, le sizing n'est pas tellement important dans le sens que tout est bon. Mais soit on fait un petit sizing, J'aime bien genre un quart ou la moitié ou deux tiers. Ouais. Mais peut-être ouais, je ferai la half pot. Quoi, ouais.
Il y a une phrase que David dit souvent dans la tête d'un pro, c'est dit Quentin. Quand un bon joueur représente rien, c'est qu'il l'a en fait. Ouais. Et j'aime bien faire une mise dans ce cas-là qui représente rien. Ouais. Où le mec pourrait se dire, il représente rien. Et en fait, tu l'as. Et c'est une phrase que tu dis souvent. Et je trouve que c'est hyper intéressant de dire. Ouais. Je vais faire genre, j'ai perdu la tête dans ce coup. Mais je vais quand même faire. Donc voilà.
Nous, on a fait 3005 dans 11005. Et là, il nous est revenu dessus. Et il fait 8007.
Tu peux redire le board exact?
As.
9 de trèfle, as de carreau, 5 de cœur. Nous, on a as-roi, as de cœur, roi de trèfle.
Il est revenu sur la mise de 5000.
Nous, on fait 3005, continuation bet dans 11005 et lui, fait 8000.
Maintenant, on peut commencer à imaginer ce qu'il a.
Exactement. Sur quel genre de main tu le vois, toi,
Jérôme? Il peut tout à fait avoir collé vite avec paire de 9 en main. C'est pas complètement con. Est-ce qu'il aurait tribet alors qu'il n'y a pas de.
Est-ce qu'il aurait intérêt à nous revenir dessus avec un brelan?
C'est un joueur amateur?
Non.
C'est un bon joueur?
Ouais, c'est un bon joueur.
Ça, c'est une vraie question aussi.
Si c'est un bon joueur, jamais il aurait. S'il a brelan,
voilà,
il flatte.
C'est ça, il
colle.
C'est ma première question. Donc,
c'est quoi tu dis, Mundir?
S'il a brelan 9, par exemple.
S'il a brelan 9, jamais il te revient dessus. Il va te garder et là, ensuite il jouera.
Il avait open en premier dans le coup, hein, lui.
C'est lui qui est petite blinde.
Est-ce que As 9 est complètement con aussi? Non?
Pas mal. Intéressant. Ouais,
As 9 suité, ouais, pourquoi pas. Mais il 3 bête pas As 9 suité. Non.
Pareil, moi, si j'ai As 9 à sa place, sur les 3005, je me gratte la tête et je les paye. Je fais pas 8007, hein.
Ouais.
Surtout qu'il n'y a pas de tirage et tout, je sais que je suis injouable, quoi.
Le ratio jeton de lui et moi, c'est quoi?
On a 65 000, lui, il a 43 000.
Ouais. T'as 150 bébés, préflop.
Comme on est très deep, on a envie de faire grossir le pot avec nos mains fortes pour tout lui prendre. On a trop peur de rater de la value si on a, par exemple, brelan de 5. Et que l'autre a As-Roi et qui check back la turn, on prend pas assez, on a envie de tout prendre. Donc on pourrait envisager à ce qu'il check raise des mains fortes, mais d'un point de vue purement technique, théorique, il peut aussi check raise des mains comme As-Dame, As-Valet en value ici.
Bien sûr.
Donc on a une main beaucoup trop forte pour folder, donc c'est inenvisageable.
Ah oui, dans aucun cas, je pense qu'un de nous va folder
là-dessus. Surtout qu'il peut avoir aussi des pure bluffs aussi, des backdoors, des good shots, des trucs. Mais il faut call. Toi, tu
t'allies à faux call?
Ouais. Prendre l'information, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Et qui se faisait avant.
Ça aurait consisté en quoi de prendre l'information là-dessus?
Ça veut dire de sur-relancer. Ouais.
Ah, de remettre sur ces 8007?
Ouais.
Ok, je colle. Alors, je colle en me disant déjà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va forcément.
On réévalue après. À la turn. Ouais. Ouais.
Okay. Donc, call.
Eh bien, on a call. Le turn, dame de carreau. Et là, la petite blinde va checker.
Là, c'est plus chiant, je trouve.
Ouais.
Parce que non seulement tu devais imaginer qu'il puisse avoir le As-9 dont t'as parlé Jérôme, tu devais imaginer l'éventuel brelan, et l'As qui était emmerdant et qui aurait peut-être justifié tous ses moves depuis le début, c'est le As-Dame.
Il y a 29 000.
Il a checké.
Le As-Dame, il est parfaitement compatible avec tout ce qu'il a fait depuis le début, pour le coup maintenant.
Est-ce que si c'est un bon joueur, il est capable de check-raise la river? C'est la question que je me pose.
La turn.
Non, mais la river aussi, parce qu'il peut checker.
On a pas moi, la turn,
je lui mets 25 et il me fait tapis derrière.
Qu'est-ce qu'il a fait là sur la dame? Il a fait quoi?
La petite blinde a check et c'est à nous de parler.
Bah, écoute, David, est-ce qu'un bon joueur check raise la river parfois?
Non, parce qu'on a la turn maintenant.
La turn là.
Non, on est turn. Il y a la dame qui est rentrée. On n'a pas encore la river. 9 de trèfle, as de carreau, 5 de cœur, dame de carreau.
Après son check, je vais te dire, je vais check parce que là maintenant ça commence à devenir dangereux.
Okay.
Et je me demande ce que je vais faire à la river en fonction de ce qu'il y a. Et je suis assez emmerdé.
Check aussi comme
à partir de ce moment-là.
Okay. Je check. Mundir.
Extrêmement rare quand c'est un bon joueur qui 3 bêtes sur le board quand tu mises et qu'à haute turn il check. En temps normal, il envoie une sauce. Moi, je pars du principe que je ne peux pas checker. J'ai encore une main forte à ce niveau-là. Pour moi, le board, il est pas dangereux. Je mise un tiers quand même.
Pourquoi tu dis que le board, il est pas dangereux?
Mais parce qu'il y a pas de possibilité de quinte, il y a pas de possibilité de couleur.
Et les brelans As-9 ou As-Dame, ça te fait pas peur?
Bah, parce qu'en fait, il aurait misé turn. Il peut, un bon joueur, il value même vite, mais un tiers, justement, pour te faire payer.
C'est-à-dire que son check est un check de faiblesse pour toi?
Je dis pas que c'est un check de faiblesse. Moi, je trouve que c'est un check de question que je dois me poser, que j'analyse tout de suite. Pourquoi il me 3 bet, sur ma mise sur le board, sachant que sur la turn, il check, et j'essaie de voir toutes les possibilités, parce que son intérêt à lui, vu que il est moins fort en jetons que moi, pour le coup, je dis, je mise un tiers. Et là, je vais voir ce qu'il a.
Je comprends.
Parce que si je mets un tiers et qu'il me fait tapis, là, ma décision, elle sera simple.
Elle sera un peu compliquée. Ouais, plus simple. Dave.
Ouais, je pense que beaucoup de joueurs auraient check, mais moi, je préfère de loin miser, pas cher, un quart pot. D'abord, il y a de la value sur des mains, justement, comme As-Valet. Puis pas avoir une main comme 10 valets qu'il a check raise et au turn on lui offre une cote et comme ça permet de check back river. Je crois pas que j'ai deux streets de value, je préfère la prendre au turn. Et river, s'il check, je check back. Il peut encore avoir une main comme As-5 et décider de checker la turn. Donc des mains qui nous battent encore, mais effectivement un brelan, ça je pense qu'il aurait tout le temps bête. Donc, j'aime bien bet un quart. Et effectivement, si raise, je pense que c'est la mieux. Ouais.
Je peux une question rapide. Qu'est-ce que pour toi, à ce moment-là, du coup, il peut avoir? Est-ce que tu sélectionnes dans ta main? Est-ce que toi, là, dans ta tête, t'as déjà 4-5 mains qu'il peut avoir?
Ouais, en fait, j'ai pas le nom du joueur en face et moi, je joue très par rapport à l'adversaire. Ouais. Mais en général, les joueurs sur As 9-5 dans ces situations, ils peuvent check raise par exemple une main comme 5 et 6, un 5 quoi. Et donc on va lui laisser voir gratuitement la river. Ils peuvent check raise des gut shots 7 et 8 suité avec backdoor flush. Il peut check raise 10 valets par exemple As 9-5. Si le 9 est de cœur, il a 10 valets de cœur. C'est des mains à check raise. Je pense que ça, c'est ses mains en bluff. Et après, en value.
Donc, en aucun cas, il faut lui laisser la river gratos, quoi.
Voilà, en aucun cas. Ça n'a pas d'intérêt parce que je ne pense pas qu'il va bluffer dans tous les cas. C'est bien de laisser une carte quand on pense que notre adversaire va bluffer.
Il ne peut plus avoir As-Dame-As-9 à ce moment-là, si encore?
Il peut avoir As-Dame-As-9, mais je pense surtout As-Dame, il a plutôt envie de bet la turn. Continuer à bet. Mais parfois, s'il est tricky, c'est pour ça que ça va être très dépendant du joueur. Il pourrait check.
Donc, la petite blinde à check, on a check.
Check.
Également. River 10 de pique.
Donc, lui, il a fait ce que nous, on a fait, mais qui, pour un bon joueur, n'est pas logique. D'accord. C'est quoi? C'est 10 de pique?
River 10 de pique. Et là, la petite blinde a pile la taille du pot qui lui reste en tapis et pousse son tapis. 28 000.
Waouh!
Dans 29 000.
Mon tournoi n'est pas en danger personnellement, mais je trouve que c'est
ah si
c'est...
tu payes il est en danger ton tournoi.
T'as beaucoup perdu.
Ah oui, mais... et tu te sens avec 20 000.
Je suis pas sorti.
15 000. Il te reste 20 000.
Ouais mais c'est
non, t'es pas sorti. Oui, bien sûr.
D'accord, il me reste 20 000. Je suis pas sorti. Je trouve que c'est
13-40. Enfin,
je parle après, mais vas-y, Jérôme.
Jérôme, qu'est-ce que tu fais?
PLS.
Il y a beaucoup de banques.
Doliprane.
Je fais l'appel à un ami.
Ouais.
Déjà. J'appelle Davidi.
Lequel? Oui.
Je m'en vais. J'appelle Davidi. Mais
allô, poker stratégie.
Le problème, c'est je vais vraiment jouer en conditions réelles. Admettons si c'est là demain, avec le poker que je joue actuellement et la non fréquence de.
Et la trop.
Je vais au plus. Quelque part pour moi le plus simple et le plus évident comme ça, sans réfléchir 3 heures, je vais faire comme vous dire. Je crois que je vais payer.
Payer. Daniel.
Il y a beaucoup de mains qui nous battent maintenant. Beaucoup, beaucoup.
Qu'est-ce que tu bats? C'est ça aussi la vraie question. Qu'est-ce que je bats maintenant?
Surtout, qu'est-ce qui te bat? Il y a beaucoup
de choses. Je vais battre quoi?
Tu bats qu'un bluff.
Histoire des bluffs. Il n'y a que ça que je bats.
Tu bats qu'un bluff parce que là, soit il représente deux paires, soit il n'a rien. Ou soit quinte. Non, pas quinte, mais soit il y a deux paires.
Le roi valet, on ne l'a jamais évoqué depuis le début.
Mais dans les mains que David disait,
soit deux paires d'rien. Et moi, je pense que je le vois plus sur As-10 que sur As-Dame. Donc la mort dans l'âme, je fold.
Fold, toi payé, Jérôme. Daniel.
Je crois que je vais fold, malheureusement. Je vois pas. Je vais essayer de perdre moins dans ce coup-là. Je sais pas. Je vois pas
comment ça. Si c'est Bernard Mendy en face, je paye.
Ah oui.
Qu'est-ce que tu fais?
T'as pas le nom du joueur en face.
Je te le donnerai après le nom.
Donc ça va être très joueur dépendant. Ça va être aussi l'analyse de ses tels et tout ça.
Tu vas d'abord donner la réponse sans connaître le nom du joueur. Après, il te donne le nom du joueur et tu vois si tu modifies ta réponse ou pas.
Ah, ok.
Allez.
Vas-y, Dave.
Ça peut être
vas-y, Dave.
Je pense que plus de 80% des joueurs sont pas capables de bluffer ici. En fait, ce qu'il faut se poser comme ces questions, c'est qu'est-ce qu'il s'attend à ce qu'on fasse, nous. Mm-hmm. Et je pense qu'ici, on représente... On peut même avoir des mains très fortes, par exemple, Roland d'As. On va checker la turn pour le piéger. On peut encore avoir des mains très fortes. Du coup, c'est... Je fold, ouais.
C'est un fold ?
Ouais. Il bluffait.
Nous, on a fini par payer. Et en face, triple champion du monde belge. David Ikitaï.
Mais non, c'est de moi, David.
Ouais, c'est toi qui as As-Dame en face.
Ah, mais oui. Ah, Loulou, mais tu vois, regarde, c'est ma première. Attends, c'était ma première idée, As-Dame. Ah ouais. Non, mais c'est ta première idée, mais il a joué. Tu vois, le fait que le 10 rentre et qu'il fait tapis, c'est quand bien même que tu dis As-10 ou As-Dame, il a deux. Il y a que deux paires là-dedans, il n'a pas brûlant.
Et pourquoi tu check turn avec As-Dame du coup?
Ah, sympa que j'ai checké.
C'était dans la tête d'un pro.
Oui, oui, jamais. Et le gars, il dégoûté, c'est pas ce qu'il fait.
C'est un épisode de dans la tête d'un pro.
Ça, après, maintenant, là, je m'en souviens. Maintenant, je m'en souviens.
Je m'en souviens pas, c'est vrai.
Allez là.
Donc, le fiche a perdu.
T'as perdu. Enfin, mais t'es toujours dans le tournoi. T'es toujours dans le tournoi.
Ouais, il te reste 20 000.
Mais bon, le mec a fait comme moi.
Nous, il nous reste.
Ouais, il a payé.
Il a semblé.
Mais le As-Dame, on l'a anticipé assez.
As-Dame, As-10, le gars, quand il chauffe, il bon, bah, c'est deux paires. Hein. Ça, c'est deux paires.
Très belle main.
Bravo. Ouais,
bravo. Merci
bravo,
beaucoup, messieurs, d'être venus dans l'RMC.
Merci beaucoup,
Jérôme.
Merci,
Jérôme.
C'est top.
Continue tes petites parties de poker.
Merci, Jérôme, les gars.
Et David Ikitaï, bah, alors, bonne PT Monaco. On va fermer en l'ordre, hein, pour, on va pas déjà te souhaiter un bon Vegas.
EPT, Marrakech.
Il y a un petit tournoi à Cannes avant ça.
Eh oui, je voulais choper.
C'est près de chez toi, Jérôme.
Ouais. Ah, ouais, juste au-dessus.
Et l'Italien Poker Tour après Monaco. Faut venir faire un tour.
500 balles, c'est un clochard pour lui, hein.
Ah oui. Ah, c'est quoi le max?
Bah, c'est 500 le minimum.
Non, il y a un 2002 Mystery à Irlanda.
Voilà.
Ah, si ça, c'est pour vous dire, parce que 500, même pour.
Si, 500, c'est pour moi.
Même vous allez venir.
Ouais, on y va.
Vous venez d'arriver à un niveau.
Je vais dire 500 balles, il regarde.
Ah, oui.
Il te méprise. Tu joues à 500 balles, il te méprise.
Mais arrête de dire à côté de des conneries.
Mais je préviens Jérôme.
Mec,
qu'un jour, il ait le malheur de dire qu'il a gagné 200 balles, il va te regarder, il va dire.
Mais c'est lui, là, qui m'envoie. Mais moi, 200 balles, je ramasse.
Il vient de me dire, Moundir, 500 euros, il te regarde pas.
500 euros, il regarde pas. Parle pas avec les non-dents, s'il te plaît. Vas-y,
bonne semaine à tous.
Salut, les amis. Ciao.
C'est le RMC Poker Show.
RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Winamax, le plus important, c'est de gagner.